Chapitre 10. Rainy refuse que je sorte jouer avec Luca. Trop chaud, dit-elle. Ce qui est exact, mais nous savons toutes les deux que ce n'est pas la vraie raison de son inquiétude. Alors je prends mon bol de yaourt saupoudré de muesli et je descends au sous-sol. S'il fait trop chaud dehors, elle ne peut rien trouver à redire à la fraîcheur de la cave, n'est-ce pas? J'aime bien cette maison. J'ai de la chance d'avoir atterri ici et je le sais. Pas seulement parce que Rainy et Quincy veulent m'adopter ou parce qu'ils ont un boulot cool qui consiste à coincer des tueurs, mais parce qu'ils ont réussi dans la vie et qu'ils ont une maison qui le prouve. Comprenez-moi bien. La maison de ma première famille d'accueil était propre et agréable. Et dans mon souvenir, celle de la famille numéro 3 était aussi mignonne comme tout, si on aime le genre patchwork cousu à la main et nain de jardin aux joues rouges. Mais la maison de Rainy et Quincy, j'aime qu'elle soit perchée au sommet d'une colline, au bout d'une allée de gravier très abrupte qui empêche quiconque d'approcher sans se faire repérer. J'aime aussi la profusion de fougères et de fleurs sauvages qui montent jusqu'au porche de la maison, où trône une paire de fauteuils à bascule à d'Adirondack. Le jour où mon assistante sociale m'a amenée ici pour la première fois, j'ai eu l'impression d'entrer dans un catalogue L.L. Bean. La maison est grande. Mais pas trop, affirme Quincy. Je crois que c'est lui qui l'a dessinée. Elle est quand même immense aux yeux d'une enfant de l'assistance publique. Des espaces de vie ouverts, des poutres apparentes, une cheminée en pierre monumentale. Beaucoup de fenêtres et de verrières qui nous empêchent, Rainy et moi, de devenir folles dans la grisaille des mois d'hiver. Et il y a les petits détails amusants. Un sol à cabochons de pierre dans l'entrée. Un escalier sur mesure avec des balustrades en branches de bouleau. Pour faire entrer la nature dans la maison, m'a un jour expliqué Quincy. J'aime la nature. Plus tard, j'aimerais bien construire une maison dans ce style. Peut-être que je pourrais suivre la voie de mes futurs parents adoptifs et devenir à mon tour experte en monstres. Alors que je descends au sous-sol, Rainy reste à la table de cuisine à pianoter sur son ordinateur portable. Elle ne m'informe pas de ce qu'elle cherche et je ne lui pose aucune question. C'est comme ça dans notre famille. Une fois en bas, Luca ouvre grande la gueule, comme s'il bâillait. Mais en réalité, je crois qu'il essaie d'inspirer un maximum d'air frais. Le sous-sol reçoit de la lumière naturelle grâce aux soupiraux percés dans le mur du fond. Mais c'est surtout un espace dédié à la détente. Dans un coin, des équipements de sport. Un tapis de course et un vélo elliptique, pour les jours où ces deux obsédés ne peuvent pas sortir faire leur jogging du matin. Au milieu, un canapé marron clair en forme de U face à une télé à écran plat d'une taille spectaculaire. Un bon endroit pour glander. Je pourrais y inviter des copains, un jour suggéré Quincy, avant d'apprendre à me connaître. Même Luca a son espace à lui. Une énorme niche avec des montagnes de coussins pour chiens, quelques précieuses balles de tennis et bien sûr une grande gamelle d'eau. L'ensemble a quand même un petit côté cachot médiéval, ce qui a conduit Quincy à ironiser sur les profileurs et ce qu'ils cachent dans leur sous-sol, avant de s'apercevoir que j'écoutais. Comme Rainy le lui a fait remarquer, « Quincy, nous avons une enfant maintenant, et les enfants ont toujours une oreille qui traîne. » Luca est censé passer ses heures de repos dans sa niche. Du moins, c'était l'idée de Quincy quand il l'a fait installer. Mais la plupart du temps, Luca dort sur mon lit ou couché au pied de Rainy. Quincy vous dira qu'il sait reconnaître ses défaites. Je pose mon yaourt sur la table basse en bois foncé. Luca n'y touchera pas. Trop professionnel pour s'abaisser à du chapardage. Non, il tourne tranquillement en rond autour du canapé, prend ses repères, profite de la fraîcheur de l'air. Je le laisse se détendre. Nous avons pris du retard dans son programme d'exercice physique, sans parler du dressage. Mais je mets ça sur le compte de la canicule. Comment voulez-vous vous concentrer par une telle chaleur? Lui, au moins, on ne l'a pas obligé à aller à un stage de natation. Dès que je suis rentrée, je lui ai dit à quel point il avait de la chance et j'ai vu à son air grave qu'il me croyait. Je n'allume aucune lampe. Le soleil radieux qui entre par les soupiraux suffit. Et puis, il fait plus frais comme ça. Mon yaourt posé sur la table, Luca en orbite autour de moi, je sors de ma poche arrière le véritable objet de ma présence au sous-sol. Mon iPhone. Je lance une recherche sur Safari. Meurtre, Bakersville, Oregon. Dernière minute, m'informe le premier titre. Double meurtre par balle dans une station EZ Gaz. Plus de détails à suivre. Mais les articles ne donnent que peu d'informations et cela m'agace. Luca vient s'asseoir à côté de moi. Il pose sa tête sur mes genoux et me regarde avec ses grands yeux marrons. Luca a des sourcils expressifs et il enlève justement un d'un air interrogatif. Je lui flatte la tête et prends une cuillère de yaourt. « Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait quelque chose, » lui dis-je. « Quel est l'intérêt d'avoir tout un Internet rempli d'actualités si on ne peut pas trouver les informations dont on a besoin ?» Je tente ensuite ma chance sur le site du journal local, Le Soleil de Bakersville. « Publicité mensongère, » dit Quincy. « Bonne pioche. Une photo. Une image de vidéosurveillance, en fait. Un adolescent en sweat à capuche noire qui pointe un pistolet. La dégaine classique du voyou, je dirais. Sauf que ce voyou a les yeux de Telly qui le regarde droit vers moi. Je le considère longuement. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Une révélation? Un flash de souvenir? Un pincement au cœur? Mais je regarde cette photo et je ne ressens rien. Strictement rien. Puis, presque comme en réponse, mon épaule me brûle. Luca pousse un gémissement sourd. Je lui caresse les oreilles, mais c'est surtout moi que je veux réconforter. Je m'arrache à la contemplation de la photo pour parcourir le texte. La fusillade de la station-service s'est déroulée peu avant 8 heures du matin. À peu près au moment où je devais me lever en traînant des pieds parce que je redoutais la journée qui m'attendait. À 8 heures, je sortais Luca et j'avais un mouvement de recul en percutant le mur de chaleur à l'extérieur, de plus en plus nerveuse à l'idée de devoir passer ma matinée coincée à la piscine. L'information la plus intéressante arrive au pied de l'article. Le suspect a pu être identifié. Telly Ray Nash, 17 ans. Également recherché dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de Frank et Sandra Duval. Considéré comme armé et dangereux. Enfin, j'ai une réaction. Je frissonne. Et volontairement ou non, je revois le couteau. J'entends la voix de mon père qui cherche à nous amadouer de l'autre côté du canapé. Et je sens les mains de Telly qui m'attrapent et me jettent dans la première pièce venue pour que je ne sois plus sur la trajectoire de mon père. Mon poing s'est refermé au-dessus de la tête de Luca, sur son beau pelage noir et fauve. Il gronde, si bas qu'on dirait un roulement de tambour au fond de sa gorge. Et je desserre les doigts. Je lui flatte une nouvelle fois la tête doucement. « Tout va bien, » lui dis-je. Mais cette fois-ci, il ne me croit pas. Je ne sais pas quoi penser. Quoi ressentir? Je ne mentais pas à Rainy tout à l'heure. Je ne me souviens pas vraiment de mon frère, ni de mes parents. Ce sont plutôt de vagues instantanées qui me reviennent. Une boîte de Cheerios jaune, une odeur de cigarette, Clifford, le gros chien rouge. Mon frère qui m'emmenait à la bibliothèque pour me lire des histoires pendant que je sirotais du jus de pomme. Mon épaule me fait souffrir. Je suis en nage et pas seulement à cause de la chaleur. Je n'ai pas envie de penser à lui, ni à mes parents. Mais maintenant, c'est irrépressible. Je suis envahie d'un mélange de tristesse, de peur et aussi de désir. Mon frère, mes parents me manquent. Affreux ou non, ils étaient quand même ma famille. Pas vrai, me dis-je. Aujourd'hui, j'ai Rainy et Quincy. Et ni l'un ni l'autre ne me poursuivraient dans toute la maison avec un couteau ensanglanté, ni ne me casseraient le bras avec une batte. J'ai gagné au change. N'empêche, je suis triste. Je me surprends à toucher le visage sévère de Telly. Comme si j'essayais d'y retrouver une qualité qui n'a probablement jamais été là. Reprenons. Je tape une nouvelle recherche sur le petit clavier tactile de mon téléphone. Frank et Sandra Duval, Bakersville, Oregon. Il se trouve que Sandra possède une page Facebook où elle partage des recettes pour mijoteuses, publie les photos d'un étudiant qui porte des tenues oranges de l'Université d'Oregon et donne des idées de travaux manuels. Je me demande si c'était une bonne mère d'accueil. En tout cas, elle a l'air fière de son fils, l'étudiant. Et son mari, Frank. Est-ce qu'ils ont spontanément offert d'héberger Telly? Est-ce qu'ils savaient où ils mettaient les pieds? Je trouve une dernière photo publiée récemment. Un grand gaillard en tenue de camouflage militaire des pieds à la tête et un adolescent accoutré de même à sa droite. Je reconnais aussitôt Telly. Ils ont tous les deux une carabine à la main, un animal mort à leurs pieds. Le tableau de chasse des garçons aujourd'hui, dit la légende. Portrait de mon frère en chasseur. Une fois de plus, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que Telly s'est amusée ce jour-là? Instant privilégié pour tisser des liens avec son père d'accueil? Est-ce qu'il était content d'être au grand air, de connaître le frisson de la chasse? Ou bien est-ce qu'il se disait que tout ça aurait été plus simple avec une batte de baseball? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais savoir tirer. J'ai demandé à Quincy de m'apprendre. Il a voulu savoir pourquoi. Pour me défendre, j'ai dit. Tu sais, juste au cas où. Tu as Luca, il m'a répondu. Tu n'as besoin de rien d'autre. Mais je suis revenue à la charge. Il y a des armes dans la maison. Je devrais au moins connaître le béaba, les règles de sécurité. Il a souri et j'ai cru que j'avais emporté le morceau. Mais il ne m'a jamais emmené au stand de tir. Plus tard, a-t-il dit. Mais je ne sais pas très bien ce qu'on attend. Je regarde cette photo en ligne et je m'interroge sur mon frère. Est-ce qu'il aimait les Duval? Est-ce qu'il habitait chez eux depuis un certain temps? Est-ce qu'il les considérait comme sa famille? Ou bien est-ce qu'il avait été ballotté par le système, grand adolescent qui traînait déjà une réputation de violence? Il me donnait des Cheerios, je crois. Il m'a cassé le bras. Il m'a sauvé la vie. Et il ne m'a jamais reparlé depuis. Est-ce que c'était ma décision, la sienne? Je ne m'en souviens plus. Je n'étais qu'une petite fille et la soirée avait été un tel cataclysme. J'ai pleuré, j'ai hurlé, ça je m'en souviens. Est-ce que je lui ai crié dessus? Est-ce que je l'ai traité de monstre en lui disant que je ne voulais plus jamais le voir? Ou bien est-ce que lui m'a fait des reproches? Est-ce qu'il a regardé sa petite sœur qui sanglotait comme une malheureuse à ses pieds, en se disant que tout était sa faute? Que si elle avait été plus calme, plus sage, notre père n'aurait jamais piqué sa crise et lui n'aurait pas été obligé de tuer nos parents? J'ai honte maintenant. Mais peut-être que j'ai honte depuis toujours. Et que c'est simplement la première fois que je me l'avoue. Mes parents sont morts. C'est mon grand frère qui les a tués. Et je suis partie, sans jamais me retourner. Je me suis trouvée une nouvelle famille dans une plus jolie maison avec un super chien. Et j'ai tout oublié des miens. Dernière recherche sur la station EZ Gaz, lieu du dernier crime connu de mon frère. Ensuite, je demande l'itinéraire pour s'y rendre depuis mon emplacement actuel. Une vingtaine de kilomètres à l'ouest, indique la carte. 25 minutes en voiture, beaucoup plus à pied. Près, mais pas trop près. Exactement la façon dont nous vivons depuis 8 ans. Je m'adosse au canapé, perdu dans mes pensées. J'ai l'impression que je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Le passé est un luxe que ne peuvent pas s'offrir les enfants placés. Nous sommes trop occupés à vivre dans l'instant. Si j'ai autrefois eu des pensées au sujet de mes parents, je ne m'y plonge plus. Si j'ai eu des émotions devant le geste de mon frère, je ne les éprouve plus. Je me demande si Telly avait lui aussi tiré un trait sur le passé. Jusqu'à ce matin où il s'est levé, a chargé une première arme et pressé la détente.